Bonjour et bienvenue pour cette deuxième édition de Figures franco-allemandes. Je m'appelle Félix et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette émission qui sera d'un côté exceptionnellement longue, mais de l'autre côté en aucun cas moins intéressante que la première. Parce que nous avons eu l'honneur de rencontrer Béatrice Engrand, ancienne secrétaire générale de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, avec un accent sur « ancienne ». Parce que, quand cette émission a été enregistrée fin mars, Béatrice Engrand était encore à la tête de l'OFAGE, mais pas loin de changer de poste pour ensuite prendre ses nouvelles fonctions en tant que présidente de l'Agence du service civique en France. Alors tout d'abord, nous félicitons chaleureusement Béatrice Engrand pour cette nomination, pour nous inattendue, bien qu'elle nous a déjà fait savoir que le monde franco-allemand lui manque déjà. Cet épisode sera donc une belle occasion de se livrer aux souvenirs et de revenir aux origines de cette longue carrière franco-allemande, mais aussi à une variété d'expériences personnelles entre Strasbourg, Rostock et Paris. Vous écoutez Figures franco-allemandes avec notre invitée Béatrice Engrand. Bonjour et bienvenue pour la deuxième édition de Figures franco-allemandes, le podcast sur les relations franco-allemandes. On est très heureux aujourd'hui d'accueillir Béatrice Engrand, secrétaire générale de l'Office franco-allemand pour la jeunesse.
Bonjour, merci de votre invitation.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons découvrir, j'espère, un peu plus sur votre parcours franco-allemand, sur votre motivation qui vous a mené jusqu'à votre poste maintenant comme secrétaire générale de l'OFAGE. Mais déjà avant, vous avez eu un parcours assez franco-allemand. Vous avez commencé vos études en langue moderne à Paris-Sorbonne et directement après, vous êtes devenu, si j'ai bien, je me rappelle bien, vous êtes devenu attaché à la coopération à l'université de Rostock. Alors jusqu'après la chute du mur, vous êtes pour la première fois arrivé en France. Peut-être déjà avant, vous rappelez encore de la première fois que vous étiez en Allemagne?
Alors, je me souviens déjà de ma professeure d'allemand quand j'étais en sixième, ouais. Madame Bellac, qui était extrêmement stricte et en même temps très généreuse, très, très aidante pour les élèves et surtout qui a eu très tôt la bonne idée de m'envoyer en Allemagne dans une famille, donc dès ouais. la cinquième, hein, c'est-à-dire avec un niveau d'allemand assez bas, un an et demi de connaissances, et elle faisait ça à la fois pour l'ensemble de la classe, ouais. mais aussi pour certains élèves dont elle avait décelé la motivation. Donc évidemment, je me souviens de ça, et je me souviens donc qu'elle m'avait trouvé une famille en Niedersachsen, en Basse-Saxe, ouais. à Lingen.
D'accord.
Et ça a été pour moi un moment assez fondateur, parce que j'ai été très bien accueillie dans cette famille, une famille à enfants uniques, alors que moi j'ai trois sœurs et je trouvais ça vraiment formidable de ne pas avoir à partager sa chambre, de ne pas avoir à partager ses habits, ses parents. Donc c'est des choses auxquelles un peu un sentiment de liberté aussi que j'ai ressenti en Allemagne, parce que le mode d'éducation de ma correspondante était aussi plus souple. Qu'on faisait du vélo dans la rue très facilement, parce qu'il y avait déjà à l'époque pas mal de pistes cyclables. Donc comme adolescente ou préadolescente, j'ai associé l'Allemagne avec la liberté, ce qui peut être paradoxal, mais en tout D'accord. cas ça a été un moteur pour
ouais.
moi.
Et c'était à peu près à ce moment-là que vous avez eu vraiment la motivation d'apprendre plus l'allemand, ou vous l'avez commencé à apprendre parce que c'était obligatoire, ou pourquoi vous l'avez peut-être choisi?
Oui, en fait, moi, j'étais plutôt une bonne élève, parfois une très bonne élève, avec toujours un manque de confiance en moi, ouais. parce que je me comparais toujours avec des gens bien meilleurs. C'est encore comme ça aujourd'hui. Et donc, l'allemand, c'était un point d'ancrage, parce que j'étais vraiment très forte. Et donc, je me suis dit, ce point d'ancrage, et ce talent, ou en tout cas, cette compétence, je dois les entretenir, parce que c'est ça qui fait la différence. J'ai eu vraiment cette intuition initiale.
D'accord.
Parfois, on ne peut pas tout expliquer, mais c'était ça pour moi.
Et après, vous êtes, je crois bien que quand vous étiez revenu à Rostock, c'était pas la deuxième fois que vous êtes venu en Allemagne. Alors vous y êtes passé plusieurs fois assez régulièrement
Oui, je suis allée plusieurs fois dans cette famille. Ensuite, je suis allée chez une très bonne amie que je me suis faite quand j'étais en classe préparatoire. Elle-même était à l'école normale supérieure
Ouais.
comme élève allemande. Et donc, ensuite, après notre amitié, une fois qu'on a fait connaissance, bref, je suis allée très souvent chez elle à
Ouais.
Cologne. Et puis, quand j'étais en maîtrise, ça n'existe plus, voilà. Je faisais des cours de conversation avec un très beau jeune homme qui s'appelait Jörn et qui venait à la maison pour parler français. Enfin, on faisait toujours un échange moitié français, moitié allemand pour entretenir nos connaissances linguistiques respectives. Il était de Heidelberg, donc je suis souvent allée à Heidelberg et puis après Rostock. Voilà.
Et quelle était votre première impression quand vous êtes arrivé
Ah, je
pour
veux
les
vous
raisons
raconter.
professionnelles à
Quand je
Rostock?
suis sortie du
Ouais.
train, un train qui fait extrêmement lent,
Ouais.
qui faisait donc le trajet Berlin-Rostock, un train noir, sale, et que je suis sortie de cette gare. Oh, il faisait gris, le ciel était bas, il n'y avait pas un chat dans les rues, et je devais être attendue par quelqu'un qui avait un petit peu de retard, et qui heureusement a fini par évidemment me rejoindre. C'était une très grande femme, très lumineuse. Je me suis sentie quand même un peu rassurée. Et on a pris le tram parce qu'elle n'avait pas de voiture, alors que c'était quelqu'un d'assez haut placé déjà à l'université. Et le tram était un peu comme le train, c'est-à-dire sombre, cahotant. C'était un peu particulier. Et elle m'a accompagnée à l'autre bout de la ville, dans le début de la banlieue de Rostock, dans un quartier plein de tours en fait. Hein, les Hochhäuser des banlieues de l'ex-Allemagne de l'Est, où l'université me mettait un petit studio à disposition. Et c'était intéressant parce que cette femme considérait à l'époque que c'était d'abord un très grand honneur qu'on nous prête un appartement, un petit studio, et que ce studio était assez luxueux pour les conditions de l'époque, hein. Alors que moi, le petit studio, même si je viens pas d'une famille très fortunée ni très gâtée, je le trouvais assez sordide. Voilà, donc c'était mon entrée, 2 ans après la chute de Berlin, dans les Länder de l'Est, c'était quand même bon, particulier, pas toujours rassurant, mais dans le même temps, j'avais quand même l'intuition que j'allais vivre une expérience un peu exceptionnelle, que j'allais vivre un moment d'histoire important.
Alors, vous êtes quand même resté un peu plus longtemps que ça, ou vous êtes resté après. Est-ce que vous aviez l'impression que c'était peut-être à cause de la chute du mur, c'était peut-être d'un côté plus facile parce que on avait envie d'avoir des nouvelles impulsions, peut-être de renforcer la coopération internationale, ou est-ce que vous avez peut-être aussi vécu des moments où vous avez vraiment peut-être des difficultés à vous faire entendre ou à être respecté comme au début comme attaché de coopération ou après comme directrice de l'Institut français, parce que c'était peut-être regardé un peu avec un peu de scepticisme.
Votre question est très juste parce qu'en fait, il y a les deux aspects, hein. Il y a à la fois quand même un peu la fascination, j'allais dire, qu'on peut susciter parce que jeune Française, un peu parisienne, qui arrive vraiment dans cette ville du fin fond de l'Est de l'Allemagne, une ville en plus très, quand même, une ville assez rouge, j'allais dire, parce que c'était une ville, la ville des chantiers navals. Qui était assez resté longtemps très communiste, hein, rien à voir avec Leipzig où il y avait beaucoup de résistance. Bon, donc c'était mitigé le sentiment que je pouvais générer ou susciter, voilà, à la fois de la fascination, parfois un peu de méfiance, parce que je venais quand même d'un pays de l'Ouest, donc bon, on se demandait quand même si j'étais pas plutôt le bras armé de cette Allemagne de l'Ouest que les Ossis, comme on les appelait à l'époque, considéraient quand même un peu avec méfiance, parce qu'ils avaient l'impression que les Vessis plutôt que les Vessis, non, les Ossis, les gens de l'Est, avaient l'impression que voilà, ceux de l'Ouest allaient faire complètement disparaître des références auxquelles ils tenaient encore à l'époque. Hein. Donc c'était pas si simple, mais comme vous le dites, il y avait tout à construire. et peu à réparer. Donc ça m'a quand même aidée, hein, je crois. Et puis, j'étais à l'époque assez jeune, hein, 24-25 ans, donc pas si éloignée de l'âge de mes étudiants et étudiants-étudiantes. Et évidemment, ça, je crois aussi que c'était un soutien. Après, comme directrice de l'Institut français, 2 ans et demi après, bon, il y avait un certain statut un peu diplomatique. Donc, ça facilitait certains contacts, mais le travail quotidien de développement d'une structure culturelle, proposer des films, des spectacles en français, proposer des cours de langue, c'était pas si facile parce que Rostock n'était pas une ville, elle est toujours peu d'ailleurs, très intellectuelle, très très une grande ville de culture. Donc il fallait vraiment proposer des choses plutôt de culture populaire et aussi des choses axées sur la dimension professionnelle. Et c'est vrai qu'à l'Institut, on a fait décoller les cours de langue quand on a commencé à signer les premiers contrats de coopération avec des entreprises françaises, comme la Lyonnaise des Eaux, ça ne s'appelle plus comme ça maintenant, pour proposer des cours de français à des cadres allemands que la Lyonnaise des Eaux, qui venait de s'installer à Rostock, voulait proposer. Après, il y a eu d'autres entreprises qui se sont créées à Greifswald, dans d'autres villes du Land Mecklembourg, et on a décliné cette pratique des cours de français pour les entreprises. Et ça nous a vraiment fait décoller, oui.
D'accord. Alors vous avez à peu près peut-être vécu un deuxième début de la coopération franco-allemande, au moins de la coopération franco-allemande dans une partie de l'Allemagne. Et en général, c'est une question peut-être assez lourde. La coopération franco-allemande pour vous, pourquoi elle est si importante? C'est peut-être la grande question que beaucoup de gens vous posent, mais
c'est la question essentielle, et je suis bien obligée de me la reposer aussi à moi-même personnellement, parce que parfois on perd un peu la motivation, donc il faut se rappeler pourquoi c'est important, se rappeler l'importance de ce qu'on fait. Il me semble que il y a différents aspects. D'abord, j'ai l'impression que du point de vue de la jeunesse, donner au plus grand nombre de jeunes possible la possibilité de vivre concrètement ce que représente cette coopération franco-allemande dans des rencontres interculturelles sur différents domaines, que ce soit en groupe, que ce soit en individuel, que ce soit lié à son projet professionnel, culturel, personnel ou autre, c'est donner accès à une histoire compliquée mais positive. Donc je crois que ça permet à des jeunes, à une période de leur vie où ils sont évidemment très énergiques, mais en même temps un peu en recherche de qui ils sont, ça leur permet de vivre une expérience positive. Je dis pas facile, mais je dis quand même positive. Donc ça, c'est une stimulation pour moi, parce que j'adore ce travail auprès des jeunes et de les aider à trouver qui ils sont et à se développer. Puis après, plus largement, sur le plan géopolitique, j'ai l'impression que la coopération franco-allemande, quand les Français et les Allemands sont d'accord sur certains sujets européens, même s'il y a toujours le risque qu'on critique cet attelage, j'allais dire, ou cette coopération privilégiée, quand il y a un accord, les choses avancent quand même plus vite en Europe. Et puis je trouve que à partir du moment où ce sont les deux plus grands pays, ils doivent absolument pas exclure les autres, mais ils ont une responsabilité particulière en Europe. Et il me semble que la réponse européenne est quand même une des seules réponses que l'on puisse opposer, face aux grandes puissances qui veulent, nous écouter, nous piquer nos technologies, qui nous font concurrence sur le plan commercial. J'ai l'impression que seul, on ne peut pas grand-chose. Ça ne veut pas dire que l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui est parfaite, mais il me semble que c'est quand même une des meilleures réponses, d'avoir une réponse groupée dans le monde, que 28 réponses ou 27 réponses individuelles.
D'accord. Alors, je crois qu'on a déjà bien appris que vous avez un peu le début de votre parcours professionnel. Vous faites partie des relations franco-allemandes. Après Rostock, vous étiez conseillère au président de Arte, la chaîne de télévision franco-allemande. Et après, finalement, vous êtes au moment secrétaire général de l'OFAGE. Pendant toute cette période que vous faites partie du franco-allemand, comment ces relations ont-elles évolué un peu, hein? Comment les choses ont peut-être changé, la mentalité, les approches qu'on mène peut-être, vous avez déjà évoqué la question de l'exclusivité franco-allemande. Est-ce que ça se joue aussi un rôle?
Alors, sur le plan politique, géopolitique, je trouve que c'est assez net. Quand même, cette remise en question régulière de la légitimité franco-allemande, je trouve que c'est plus récurrent aujourd'hui que ça l'était il y a 20 ans ou il y a 25 ans. Une des grandes différences, c'est que ben, on est aujourd'hui avec une Allemagne unifiée. Alors évidemment, les Länder ne sont pas tous sur le même plan, mais ce n'est pas tout à fait la même chose qu'avant la chute du mur de Berlin ou que même dans les années 90, quand j'ai commencé en Allemagne. Ce que je trouve récurrent comme problème, c'est ce que j'appelle en allemand « die Illusion der Nähe », c'est-à-dire de croire que parce qu'on est voisin, on est pareil. En fait, non. On est fondamentalement différent et il faut pas se laisser prendre par cette illusion. Et parfois, l'autre jour, j'entendais des diplomates allemands qui disaient parfois on est plus proche des Chinois. Bon, il y a moins d'incompréhension avec les Chinois qu'avec les Français, précisément à cause du fait qu'on se laisse prendre, en fait, comme les mouches avec le vinaigre, de croire que en fait on est pareil parce qu'on est voisins qu'on est dans un même continent. Et je crois qu'on est fondamentalement différent. Ce que je crois, et que c'est une conviction forte qu'il n'est pas toujours facile à faire accepter, c'est qu'on est extrêmement complémentaires et que si on met nos forces en commun, je crois qu'on peut vraiment déplacer les montagnes. Et quitte à citer quelques lieux communs, je dirais voilà, les uns sont plus organisés, les autres sont meilleurs dans l'improvisation, les uns concertent, les autres décident un peu plus top-down, donc les uns, les premiers sont peut-être meilleurs sur le moyen, long terme, les seconds meilleurs sur la rapidité, et je crois qu'il faut les deux, à la fois dans le monde économique, dans la vie administrative, dans le monde politique. Donc ça, je trouve que ça arrête ce potentiel de la complémentarité, mais que peu de gens ont envie de s'y essayer. Voilà. Donc ça, c'est un peu quand même une petite déception. Et la deuxième chose, là, c'est plus quand même un point d'attention, c'est qu'on rencontre de plus en plus d'interlocuteurs qui s'imaginent qu'on peut aussi bien travailler en anglais entre les Français et les Allemands que dans nos deux langues respectives. Et ça aussi, je crois que c'est une illusion. Seconde illusion. Parce que je crois que c'est une coopération spécifique qui est le résultat d'une histoire compliquée, qu'il faut toujours, la pertinence de cette coopération doit toujours être réexpliquée, elle n'est jamais gagnée. Et je crois que la dimension linguistique qui permet une complicité fait partie de cette spécificité. Bon, et j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins, je ne veux pas du tout être passéiste, parce que moi je suis plutôt quelqu'un d'extrêmement dynamique et positif, enfin dynamique j'espère, mais en tout cas optimiste, mais j'ai l'impression que cette conviction que la langue c'est important dans notre relation, elle est de moins en moins partagée. Donc à la tête de l'OFA, je peux vraiment mettre en cohérence ma conviction et ma mission, donc j'en suis très heureuse.
Alors là, vous avez parfaitement fait la liaison avec ma prochaine question, parce que je voulais un peu parler plus de ce que vous faites auprès de l'OFAGE et ce que l'OFAGE en général fait. Alors pour nos auditeurs qui connaissent peut-être un peu moins l'OFAGE et tous ses programmes, en fait, quelle est la mission de l'OFAGE et qu'est-ce que c'est que vous faites régulièrement tous les jours dans vos programmes, et en tant qu'équipe binationale, en fait, vous avez des Français et Allemands dans votre équipe. Et peut-être vous pouvez évoquer aussi le fait que vous venez d'évoquer que c'est parfois qu'il y a quand même des différences entre les deux cultures, peut-être, et comment vous arrivez à gérer une équipe ensemble avec votre homologue qui a récemment pris ses fonctions, Tobias Buteau. Comment vous arrivez à gérer une équipe vraiment franco-allemande?
Alors, notre mission, elle est décrite dans l'accord intergouvernemental. C'est soutenir les échanges de jeunes entre les deux pays. Donc, vous voyez, c'est très vaste. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que théoriquement, l'OFAGE doit permettre à tout jeune qui en a l'information de pouvoir avoir un contact avec la France ou avec l'Allemagne dans tous les domaines, alors que ce soit dans le cadre scolaire, universitaire, dans sa formation professionnelle, dans ses engagements, j'allais dire religieux, parce qu'il y a pas mal de projets avec les églises en Allemagne, mais voilà, les engagements volontaires ou autres, culturels, musicaux, enfin musique et culture ça va ensemble, mais sport bien sûr. Donc c'est vraiment cette idée de pouvoir, grâce à la multiplicité de l'offre, toucher tous les publics à tous les âges. Bon, alors c'est extrêmement ambitieux. J'ai l'impression qu'on y arrive en partie parce qu'on fonctionne selon le principe de subsidiarité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se place à côté d'acteurs de terrain qui montent des projets. Alors, soit des écoles, des centres de formation d'apprentis, des associations, des clubs sportifs qui permettent à des jeunes des deux pays de se rencontrer. Et pas uniquement que des deux pays, on a 15% de nos programmes ou des programmes que nous soutenons qui impliquent un troisième pays, parfois un quatrième pays. Et je crois que cette ouverture aussi européenne et plus largement parfois souvent avec les pays du Maghreb, elle est vraiment très importante. Hein. Donc c'est cette idée de faire bénéficier, de rendre la coopération franco-allemande concrète pour le maximum de jeunes possible. Ça me paraît important que les citoyens de France et d'Allemagne puissent participer à cette relation privilégiée en Allemagne et qu'ils n'aient pas le sentiment qu'elle est uniquement réservée aux décideurs politiques. Hein. Ça, je crois que c'est vraiment très important, cette idée que par la mobilité, ben, on rend tangible cette relation franco-allemande privilégiée. Comme ça, ceux qui vivent cette mobilité à la fois participent et puis peuvent aussi se faire leur propre idée, ouais, hein, de la coopération. Donc il y a quand même une forme d'émancipation citoyenne voilà, dans ce que nous faisons. Notre mission, c'est vraiment de permettre les échanges, alors de différentes manières. D'abord, effectivement, on donne des subventions pour que les programmes aient lieu. Ensuite, nous formons les acteurs de jeunesse, comme on dit dans notre jargon. Ça veut dire que nous formons des enseignants, des travailleurs sociaux, des multiplicateurs, des conseillers mobilité dans des CFA ou autres. On les forme à la pédagogie de projet, on les aide en fait, on leur donne des clés pour monter un projet interculturel franco-allemand, à la fois sur le plan de la pédagogie, mais aussi de l'ingénierie, c'est-à-dire comment on remplit un formulaire, comment on demande des sous. Hein. Voilà, donc le deuxième aspect après une redistribution de moyens, c'est la formation. Troisième aspect de notre action, c'est la mise en réseau, c'est-à-dire qu'on rassemble des acteurs pour qu'ils se connaissent et qu'ils montent des projets ensemble, parce que c'est vrai que on a très souvent un comité de jumelage, une entreprise, une association de quartier qui a envie de monter un projet franco-allemand et qui n'a pas forcément d'interlocuteur outre-Rhin. Donc voilà, on aide aussi à cette mise en réseau. C'est très important dans la coopération franco-allemande parce qu'elle a longtemps été portée par des acteurs qui prennent de l'âge et elle est souvent caractérisée par l'engagement personnel justement des individus qui la font vivre. Puis à un moment, bah, quand ces individus sont fatigués, qu'ils n'ont plus envie, voire qu'ils disparaissent, bah, il faut qu'un renouvellement se mette en place et ce n'est pas si facile. Hein. Donc la question de la formation et de la mise en réseau, elle est vraiment essentielle pour assurer la pérennité de notre travail. Hein. Et puis à côté de ça, on développe des outils pour qualifier les projets, ça veut dire permettre que la mobilité des jeunes elle soit la plus impactante possible parce qu'on considère que la mobilité, ce n'est pas du tourisme, que la rencontre interculturelle, ce n'est pas du tourisme. Elle doit avoir un objectif pédagogique, elle doit avoir un objectif d'apprentissage interculturel. Et si vous ne donnez pas aux accompagnateurs ou aux jeunes eux-mêmes les outils pour que cette rencontre permettent l'apprentissage interculturel, ben elle peut être contre-productive. D'abord, ça peut mal se passer, mais attention, mal se passer, ça ne veut pas dire qu'on n'apprend pas hein, d'une mauvaise expérience. Mais enfin, il faut quand même que l'expérience puisse être un peu décryptée pour qu'elle devienne véritablement de l'expérience, en fait. Hein, voilà, qu'on passe à un niveau supérieur, pas uniquement le premier degré. Puis après, on a tout un travail politique, de faire avancer nos idées, de militantisme pour l'apprentissage du français ou de l'allemand, pour faire entendre la voix des jeunes aussi dans la coopération économique et politique. Voilà, c'est une organisation donc assez importante, puisque on est 70 personnes. En fait, un tableau des emplois de 70, et à peu près 80, un peu plus de 80 personnes qui travaillent. En gros, moitié français, moitié allemand. Et pour répondre à votre question, alors, il y a des différences interculturelles entre les Français et les Allemands, mais aussi des différences générationnelles, parce qu'on a à l'OFAGE quelques personnes qui sont là depuis très longtemps, d'autres qui viennent d'arriver, plus ou moins jeunes. Donc il y a plusieurs strates, en fait, hein, dans les différences interculturelles. Elles ne sont pas uniquement nationales. Vous avez aussi des Français qui habitent en Allemagne depuis très longtemps. Donc on dit parfois « sind eingedeutscht », hein, voilà. Donc c'est tout ça qu'il faut travailler comme manager, comme dirigeant. C'est tout à fait passionnant, mais quand même, ce que je verrais comme sensibilité, c'est malgré tout un rapport à la hiérarchie qui est un peu différent selon qu'on travaille dans le système français ou dans le système allemand. Peut-être que côté allemand, on aime moins quand le chef prend des décisions qui ne sont pas expliquées, quand le chef ne consulte pas. C'est vrai que les Français n'aiment pas beaucoup ça, mais on va dire qu'ils sont habitués et puis voilà. Ils savent que ça peut se passer comme ça. Donc ça, je trouve que c'est quand même une différence importante. Une autre qui est plus compliquée à l'OFAGE, c'est qu'il peut arriver que les Allemands sont plus directs que les Français, mais que beaucoup, en fait, j'ai remarqué quand même, beaucoup, je ne sais pas, mais un certain nombre d'Allemands qui travaillent depuis longtemps dans ce milieu franco-allemand se sont habitués à un peu plus de subtilité ou de rondeur, d'allusif aussi, et quand on est soi-même, quand ils ont quelqu'un de français assez direct comme je le suis, parfois ils ont des difficultés en fait, parce qu'ils n'attendent pas ça d'un français. Donc il faut aussi jouer sur l'image, enfin quand même sur les projections aussi qu'on suscite. Donc bon, vous voyez, c'est passionnant, c'est pas tous les jours facile, mais au moins ça a un sens, évidemment, on a l'impression d'être utile.
Alors, c'est la deuxième liaison, ça a l'air que vous avez vu les questions en avance, que vous n'avez pas du tout, mais c'est vraiment une question un peu plus personnelle, c'est quoi votre motivation de venir chaque matin dans votre bureau et travailler pour l'OFAGE, c'est quoi précisément?
Bon, écoutez, ma première motivation, c'est que je sais que tous les jours, je vais apprendre quelque chose, donc que je ne vais pas m'ennuyer. C'est vraiment intellectuellement très stimulant parce qu'il y a cette diversité. Un jour, vous avez rendez-vous avec un conseiller à l'Élysée, un jour vous rencontrez le Premier ministre et la chancelière, puis un autre jour vous allez aller vraiment dans une toute petite mission locale, dans un quartier décimé pour essayer de proposer des perspectives à des jeunes. Donc il y a vraiment cette grande diversité, je la trouve très stimulante, je pense qu'elle est assez unique. Hein. Parfois vous rencontrez des professeurs d'université plutôt assez cérébraux, et puis un jour un travailleur social qui est beaucoup plus dans l'émotionnel, voilà. Donc ça, c'est quand même une stimulation de savoir qu'on ne va pas s'ennuyer. La deuxième chose, au moins aussi importante, c'est d'être consciente que le travail que je fais, en tout cas la mission que je sers, elle est vraiment utile pour les jeunes. C'est confirmé par des travaux de recherche, et puis c'est confirmé par les centaines de jeunes que je rencontre chaque année, plus quelques-uns que je connais et que je suis depuis longtemps, et je vois à quel point cette expérience franco-allemande, ça a été un tremplin pour eux en termes de gain de confiance en soi, évidemment de compétences linguistiques, mais aussi d'acquisition de l'autonomie. Et ces compétences sociales, interculturelles, je vois bien que elles sont utiles aux jeunes, à la fois sur le plan professionnel, personnel, psychologique, qu'ils restent dans un cadre franco-allemand européen ou qu'ils partent plus loin dans le monde. Donc c'est vraiment des compétences qui sont transférables. Et je pense que tous ces jeunes qui bénéficient de nos programmes, ils ont une chance inouïe. Donc c'est vraiment de ma responsabilité de faire en sorte que cette institution, elle tourne bien pour que les crédits gouvernementaux dont nous avons la chance de bénéficier puissent servir au plus grand nombre de jeunes possible.
Quand j'ai dit que vous venez chaque matin dans votre bureau, c'est peut-être pas trop précis parce que vous vous déplacez souvent.
Absolument.
Vous avez à peu près combien de déplacements par an?
Par an, je ne sais pas, mais c'est jusqu'à un ou deux voyages par semaine, oui.
Ouais, alors
Voilà, en France, en Allemagne, parfois dans les Balkans. Avec l'OFA, je suis allée aussi en Chine. Ça, c'était absolument passionnant. On avait fait tout un voyage d'études avec les YMCA sur le volontariat. Et alors là, j'ai découvert ce que c'était l'apprentissage interculturel. Enfin, j'ai pas découvert, mais j'ai été confrontée à une grande différence interculturelle. C'est que un décideur chinois, je sais plus exactement ce qu'il faisait, m'a dit, mais vous savez, nous, nos volontaires, c'est extraordinaire parce qu'ils travaillent tous les jours de 4h du matin à 21h le soir. Et s'ils ne viennent pas, on ne leur donne pas leur certificat. Et ils appelaient ça volunteering. Donc,
D'accord. Alors,
ou, voilà.
ouais,
Donc, j'ai
une idée un peu
compris
différente à celle
une
que
idée un
vous.
peu différente. Et ce qui était très intéressant, c'est que dans cet échange, où il y avait évidemment des Français, des Allemands, des Chinois, en fait, les différences entre Français et Allemands se sont vraiment atténuées très fortement. Et je crois que les Français, voilà, c'est vrai que les Européens ont pris conscience aussi de ce qui les rapprochait, mais aussi ils se sont dit, ah, ça vaut quand même la peine de continuer à militer pour un modèle européen, parce que c'est vrai que le modèle chinois, aussi stimulant qu'il soit, faisait quand même un peu peur.
D'accord. Alors, pendant les 10 ans que vous avez déjà passé à l'OFH, quels sont les projets, peut-être aussi les développements au sein de l'organisation dont vous êtes particulièrement fier? Y a-t-il d'autres points qu'il faut peut-être ou sur lesquels vous travaillez encore et que vous souhaitez encore réaliser?
Je dirais
D'accord.
trois choses. La première, c'est vraiment d'avoir amené les équipes vers un objectif prioritaire, c'est de toucher de plus en plus les jeunes les plus fragiles, les jeunes ayant moins d'opportunités, comme on les appelle. En tout cas, tous ces jeunes qui, dans leur environnement familial, professionnel ou scolaire, ne sont pas spontanément bénéficiaires de programmes de mobilité. Donc ça, c'est quand même une fierté, c'est d'avoir fait considérablement augmenter le nombre de ce type de public dans les programmes de l'OFAJ. Pourquoi c'est important? Parce que on se rend compte que l'impact de l'expérience franco-allemande sur ces jeunes, elle est redoublée parce que ça leur donne accès à quelque chose de positif, à une expérience à laquelle ils pensaient ne jamais avoir droit. Parce que aussi ils sont confrontés tout d'un coup à une histoire pas facile, mais qui est quand même l'histoire d'une réconciliation, et que ce sont des jeunes qui vivent souvent dans des milieux où il y a beaucoup de tensions, dans les quartiers où il y a de la tension, qui ont plutôt tendance à se hurler dessus plutôt qu'à essayer de dialoguer pacifiquement. Pardon si je suis un peu caricaturale, mais c'est quand même souvent ça. Et le fait, voilà, d'accéder aux outils du dialogue pacifique, hein, qui caractérise quand même le franco-allemand. Je crois que c'est vraiment extrêmement fort pour eux. Et puis, parfois, dans ces jeunes, même souvent, dans ces groupes, il y a des profils, des jeunes issus de l'émigration, comme on dit. Et souvent, c'est la première fois qu'ils se sentent soit français, soit allemands, parce que avec leur école, un groupe de Clichy-sous-Bois va aller en Allemagne, et puis les Allemands, va considérer le groupe dans son ensemble comme les Français. Voilà. Et ça, c'est important parce que je crois que ça, y a une prise de conscience aussi d'où on vient, finalement de l'ancrage français ou allemand, et dans le même temps, prise de conscience qu'on appartient à un espace plus large qu'est l'Europe. Donc ça, première fierté.
Et comment vous arrivez à les toucher et à les motiver en fait de s'intéresser au franco-allemand
Alors
parce
ça, c'est
que
vraiment par le deuxième axe de notre mission, la formation. Parce que bien sûr, on essaie de les toucher directement, mais ce n'est pas si facile. Donc en fait, on s'appuie sur des multiplicateurs à différentes étapes, hein, que ce soit les enseignants qui sont dans des REP plus ou REP plus ou Brennpunktschulen, enseignants de langue, mais pas seulement, ça peut être enseignants d'histoire, de sport, hein. Donc vraiment, cette question d'aller toucher les multiplicateurs, les travailleurs sociaux, les conseillers mobilité dans les centres de formation d'apprentis, les salariés dans les Jugendclubs, dans la Jugendhilfe en Allemagne, hein. Tous ces publics qui sont au compte, toutes ces personnes qui sont au contact de ces publics, on essaie de les toucher, de les former pour qu'ensuite ils fassent la promotion de l'idée franco-allemande. Hein. Donc ça, voilà, c'est vraiment un gros travail qui est fait avec beaucoup de moyens humains et financiers. Je suis assez fière d'avoir convaincu plein de gens que oui, ouais. L'excellence franco-allemande, c'était pas uniquement pour des bons élèves qui font de l'allemand première langue ou l'inverse, hein, ou français première langue. Ça n'existe pas. Leistungskurs, Französisch. Ouais. Donc ça, première chose. La deuxième, bon, c'était un moment quand même très fort. C'était en 2013, les 50 ans de l'OFAGE. On a eu une année extrêmement riche avec plein d'événements, des grands responsables politiques. Donc, bon, je trouvais que c'était formidable d'avoir à organiser cette 50e année dans les 10 ans de mon mandat. Et troisième aspect, je trouve, c'est d'essayer, comme on le fait dans les Balkans, de proposer l'histoire franco-allemande comme source d'inspiration, pas comme modèle, mais comme source d'inspiration dans d'autres régions du monde. Donc bon, évidemment, on a vécu un moment exceptionnel avec la fondation et la création d'un office d'échange de jeunes dans les Balkans occidentaux. Mais par exemple, quand je suis allée en Algérie, j'ai vu combien, en fait, les outils de la coopération franco-allemande pouvaient inspirer en Algérie. Pour le dialogue entre les Algériens et les Français, c'est d'actualité, mais pas seulement, parce que plusieurs Algériens m'ont dit, mais on devrait se servir des instruments de la coopération franco-allemande pour le dialogue avec nos voisins marocains. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi, troisième point que je trouve, dont je suis assez fière d'avoir développé dans mon mandat.
D'accord, et des points que soit l'OFAGE ou le franco-allemand en général devraient encore peut-être s'appuyer un peu plus dessus, ou des défis aussi qu'on pourrait peut-être rencontrer dans les prochaines années.
Oui, alors je trouve, pour moi, le premier défi, c'est d'aller encore plus loin dans cette mixité sociale, parce qu'il n'y a pas que l'OFAGE qui doit la porter, je pense que ça doit être porté par tous les acteurs du franco-allemand. Ça, c'est vraiment une priorité pour moi. La deuxième chose, c'est d'accompagner davantage les villes, mais aussi les régions, les Länder, dans leurs projets de coopération et de jumelage. Je pense que l'OFAGE peut donner des idées, évidemment des moyens financiers, mais pas seulement, surtout des idées, faire part de son expérience pour permettre aux villes, aux Länder et aux régions d'impliquer beaucoup plus les jeunes hein, dans leurs relations, dans leur coopération transfrontalière. Ça me paraît un axe très important. Le troisième, c'est un peu dans le même esprit d'ailleurs, d'impliquer vraiment les jeunes, non pas comme des statisten, hein, je ne sais plus le mot français, des figurants, ouais. Mais vraiment comme des acteurs de la coopération franco-allemande et européenne. Hein, d'entendre ce que les jeunes ont à dire hein, sur tous les sujets, et pas uniquement sur les sujets d'éducation et de formation, mais sur tous les sujets, le développement durable, la vie économique, l'Europe sociale. Moi, mon rêve serait qu'à côté du Conseil des ministres franco-allemands, il y ait un petit Beirat, un conseil d'orientation composé de jeunes, voilà, sur lequel le Conseil des ministres franco-allemands puisse s'appuyer et vérifier que ce qu'ils discutent intéresse aussi les nouvelles générations. Ça peut valoir pour le CMFA, ça peut valoir aussi pour cette nouvelle assemblée parlementaire qui est prévue par le traité d'Aix-la-Chapelle. Pourquoi ne pas imaginer une déclinaison jeune? Je trouverais ça vraiment génial. Donc, autre axe, la participation, l'implication réelle des jeunes. Et le dernier aspect, c'est la question linguistique. Là, je ne vais pas développer parce que j'en parlais au début, mais ça doit vraiment rester un point d'attention, parce qu'il me semble que la coopération franco-allemande, elle a besoin de s'appuyer sur une masse critique, en fait, suffisante de citoyens qui, sans être bilingues, sont quand même assez à l'aise dans la langue de l'autre. Je crois que si on veut que le tandem franco-allemand il reste crédible en Europe et dans le monde, il a besoin d'être ancré dans la société civile. Parce que s'il devient un simple tandem hors sol, uniquement politique, je crois qu'il sera moins pris au sérieux par ses interlocuteurs ailleurs. Je crois que c'est vraiment ça qui fait sa spécificité, en fait. C'est toute la déclinaison de ce tandem à plein de niveaux de la société. Et que si ça s'étiole, la dimension politique perdra aussi de son impact et de sa force.
D'accord. Alors, depuis votre première arrivée en Allemagne jusqu'ici, pour conclure un peu cet entretien, quel était votre meilleur souvenir franco-allemand? Je sais que c'est une question énormément difficile, mais on va prendre peut-être en faire une habitude de la poser à nos interlocuteurs, interlocutrices à la fin de notre podcast. Et peut-être, bon, je suppose que vous en avez beaucoup, beaucoup, mais peut-être il y a un moment dont vous vous souvenez particulièrement.
En fait, je crois que c'est le jour où j'ai appris que j'allais être nommée allophage.
Ouais, et ça.
Parce que j'ai vu l'accomplissement, enfin, une espèce de, comment dire, une mise en cohérence parfaite entre ce qui comptait pour moi, cette idée de la transmission aux jeunes générations et de l'expérience franco-allemande. Donc, je crois que c'est un de mes meilleurs souvenirs franco-allemands, oui.
D'accord. Alors, en espérant que vous en aurez encore plus, peut-être. Je vous remercie chaleureusement, Béatrice Engrand,
Merci à
d'avoir
vous,
pris
Félix.
le temps aujourd'hui d'être avec nous. Et merci. Et à nos auditeurs, auditrices, on espère de vous avoir de retour avec nous pour la troisième édition qui sera publiée prochainement. Merci et bonne journée. Au revoir.
Au revoir.